Europe 1, il est 7h.
The Pool C match between England and France at Yokohama Stadium will be cancelled.
L'annonce cette nuit au Japon, le match de poule entre la France et l'Angleterre est annulé. Le mondial de rugby perturbé par un typhon en approche.
L'offensive de la Turquie dans le nord de la Syrie. Qui sont les forces en présence? Quels sont les enjeux? Décryptage et réaction dans un instant. La sécurité doit-elle être renforcée aux abords des établissements scolaires? La question se pose après plusieurs agressions ces dernières semaines, comme au Kremlin-Bicêtre en région parisienne.
D'un coup, il y a un ancien élève qui est venu mettre un coup de poing au proviseur et après on l'a attrapé pour essayer de le retenir, mais ça s'est passé vite. Hein. Il a surgi d'un coup comme ça.
Le ministre de l'Éducation nationale, invité d'Europe 1 à 8h20.
Quand les banques entendent faire payer aux clients, la faiblesse des taux d'intérêt, des taxes sur les comptes courants commencent à apparaître en Europe.
Égérie pour les uns, marionnette pour les autres. Enquête Europe 1 consacrée ce matin à Greta Thunberg.
Malgré son jeune âge, je suis convaincue qu'elle a lu beaucoup de travaux scientifiques et qu'elle les a compris. Je pense qu'elle a une manière de réfléchir qui n'est pas commune.
Les pour, comme cette climatologue du GIEC, les contre, c'est à suivre.
Dans le journal de 7h, bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01.
Europe 1. Mathieu Béliard, Marion Calais.
Pas de crunch pour les Bleus samedi, c'est l'information de la nuit. Le match entre la France et l'Angleterre dans le mondial de rugby a été annulé.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Vous êtes à Tokyo en direct pour Europe 1. Les organisateurs contraints de modifier le programme sous la menace du typhon Agibis.
Eh oui, c'est du jamais vu hein, dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Un match annulé, Angleterre-France n'aura donc pas lieu. Écoutez l'annonce en anglais hein, des organisateurs consternés.
The Pool C match between England and France at Yokohama Stadium will be cancelled.
Le match du groupe C entre l'Angleterre et la France sera donc annulé. Il faut savoir hein, que jusqu'à ce matin, l'organisation espérait voir le typhon changer de trajectoire, mais sans succès. Ce serait trop dangereux de jouer le match samedi à Yokohama, alors que le typhon est attendu à ce moment-là sur la ville. Impossible et dangereux également de délocaliser le match, hein, de déplacer les spectateurs ailleurs en si peu de temps. Rappelons que le typhon Agibis qui se dirige vers Tokyo est le plus puissant de l'année avec des vents qui frôlent les 300 km/h. Alors, conséquence sportive de cette annulation, 2 points pour chaque équipe. La France termine donc deuxième de son groupe, se qualifie pour les quarts de finale. Un quart de finale qu'elle jouera dans 10 jours dans le sud du pays, vraisemblablement contre le Pays de Galles.
Merci Simon Rubin, l'envoyé spécial d'Europe 1 au Japon pour suivre le mondial de rugby.
Et autre match annulé en Nouvelle-Zélande-Italie. Conséquence, les Blacks et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour les quarts de finale.
Europe 1, il est 7h03.
15 morts et des civils qui ont commencé à fuir. Les Turcs sont passés à l'offensive hier dans le nord de la Syrie.
Bonjour Didier François.
Bonjour.
Opération d'abord aérienne et désormais également terrestre. Ankara veut déloger les milices kurdes qu'elle considère comme terroristes, les déloger des abords de sa frontière. Une opération pas si simple que ça.
Oui, effectivement, parce que dans ce premier choc, les forces turques ont été surprises par l'ampleur de la résistance kurde. Cette nuit, elles n'ont pas réussi à percer leur défense sur l'axe principal de l'offensive. Alors, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que la Turquie a poussé en première ligne des combattants islamistes syriens plutôt que ses propres soldats. Il faut savoir que pour cette opération, l'armée turque a recruté pas moins de 18 000 supplétifs dans les différentes milices locales, dont la branche syrienne d'Al-Qaïda, contre une promesse qui a été faite de les réinstaller avec leur famille dans les territoires qui ont été pris aux Kurdes, puisque l'un des objectifs d'Ankara, c'est de créer une zone tampon entre la frontière et le territoire kurde de Syrie pour pouvoir ensuite reloger les quelques 3 millions de réfugiés syriens qui sont dans ces camps en Turquie.
Alors, cette offensive, Didier, elle a été largement condamnée. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera aujourd'hui. Le Congrès américain menace de sanctionner la Turquie. Même la Russie et l'Iran s'indignent. Didier, et pourquoi cette inquiétude internationale?
Justement, à cause de cette collusion assez problématique de la Turquie avec les groupes islamistes, alors même que les Kurdes sont nos principaux partenaires de la lutte contre le terrorisme. Ils ont combattu pendant 5 ans pour détruire le califat de Daesh. Ils détiennent aujourd'hui 12 000 djihadistes, dont la plupart sont des Syriens et des Irakiens, mais il y a quand même 2000 volontaires étrangers venus du monde entier, dont des Européens, des Français, et que personne ne veut voir à nouveau dans la nature et libre de nuire. Donc cette nuit, les Américains ont commencé à évacuer de Syrie les individus les plus dangereux, mais vous comprenez bien qu'ils ne pourront pas les emmener avec eux, l'ensemble des terroristes, en tout cas emprisonnés. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui.
Et vous évoquez ces évacuations notamment de deux des djihadistes qui ont été vos geôliers, Didier, en Syrie. Merci pour ces explications, Didier François Poirot. Europe 1.
Et avec nous pour évoquer cette offensive, la journaliste essayiste Caroline Fourest. Bonjour, vous venez de réaliser votre premier film de fiction, Sœurs d'armes, sorti hier, qui évoque la lutte des combattantes kurdes contre l'État islamique. Des Kurdes que vous avez rencontrés pour ce film. D'abord, Caroline Fourest, quel est votre sentiment ce matin ?
C'est une catastrophe. C'est à la fois moralement terrible ce qui est en train de se passer. On sait qu'on risque un massacre, on sait qu'on risque même un nettoyage ethnique parce que les soldats turcs ne sont pas dans le détail quand ils sont face aux Kurdes. Mais en plus, même pour notre propre sécurité, c'est un risque majeur parce que tous les prisonniers de Daesh vont partir dans la nature.
Et la conséquence aussi, hein, Caroline Fourest, c'est que de très nombreux civils sont touchés par cette offensive.
Oui, les civils sont déjà en train de fuir. Vous imaginez bien que ces civils, ce qu'ils ont encaissé ces dernières années, ils venaient juste de retrouver un peu de paix, parce que justement cette région est gérée en partie par donc, les Kurdes, et les Turcs vont venir balayer tout ça. Les bombardements ne feront là aussi pas dans le détail, et les civils sont en train de fuir.
Avant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, quel message est-ce que la France doit porter, selon vous, Caroline Fourest ?
La France est plutôt le pays le plus fidèle à nos alliés kurdes. La France est déjà plusieurs fois intervenue le plus fermement possible pour que les Américains ne se retirent pas. Aujourd'hui, il faut être encore plus ferme, le plus possible. Il faut arrêter de se laisser intimider par les Turcs et par toute leur menée de chantage, tous les moyens qu'ils utilisent pour nous faire chanter depuis des années. Ça n'est tout simplement pas acceptable d'abandonner nos alliés. Donc, non seulement il faut une réunion du Conseil de sécurité, malheureusement, il risque d'être bloqué par le veto russe. On sait que depuis des années, la communauté internationale est paralysée à cause de ce veto. Mais il faut aussi obtenir l'interdiction de survoler le nord de la Syrie pour que les Turcs ne puissent pas bombarder ni nos alliés, ni les civils. C'est le minimum aujourd'hui. Le contraire serait une trahison morale et militaire absolument atroce.
Merci Caroline Fourest d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Il est 7h07.
Elle a dénoncé un relent d'antisémitisme en Allemagne et appelé à combattre les forces brunes. Angela Merkel, auprès de la communauté juive hier soir à Berlin.
Après l'attentat de Halle qui a fait 2 morts et 2 blessés graves, le tueur finalement arrêté a tenté d'attaquer une synagogue ce jour de Yom Kippour. Max Privorovski est le représentant de la communauté juive de Halle. C'est lui qui a prévenu la police hier.
Ils ont mis au moins 10 minutes à arriver à partir du moment où j'ai appelé pour dire qu'il y avait une attaque armée contre la synagogue. Ils m'ont demandé qui j'étais, mon nom et des tas de choses qui ont fait perdre du temps. Nous avons demandé à plusieurs reprises par le passé à avoir ici dans la région une protection policière devant les synagogues ou les bâtiments juifs, comme c'est le cas dans les grandes villes, Berlin, Francfort. On nous a installé un système de sécurité, mais nous n'avons pas de garde professionnelle jour et nuit. Par exemple, aujourd'hui, c'était un jeune homme de chez nous qui faisait la sécurité de manière bénévole. C'est lui qui a tout vu sur l'écran de contrôle.
Le représentant de la communauté juive de Halle, il répondait pour Europe 1 à Hélène Kohl. Europe
1. Quand la violence se déchaîne aux abords et dans les écoles. Illustration dans un instant en région parisienne après l'agression d'un proviseur. La suite du journal de 7h, c'est sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h11. La suite du journal. Marion Calais, Mathieu Béliard.
La sécurité en question dans les écoles de l'Hexagone. De nombreuses agressions relayées depuis la rentrée.
Oui, un lycéen mortellement poignardé aux abords de 2 établissements au Lila, près de Paris. Un proviseur agressé par un ancien élève au Kremlin-Bicêtre, toujours en région parisienne. C'était vendredi dernier. Alors que s'est-il passé ? Victor Dolande a retrouvé pour Europe 1 certains des témoins de cette agression.
Il fout la merde devant notre lycée alors qu'il est même plus dedans. Ça, c'est grave, ça. On n'a pas envie que ça se reproduise.
Issa est élève en première. Vendredi dernier, il a assisté à la tentative de blocage de son lycée. Il se souvient d'une situation qui a dégénéré en quelques minutes.
Ils ont commencé à mettre des barrières devant l'entrée du grillage. Il y avait le proviseur qui est sorti, il y avait des surveillantes, la CPE et tout. Et on ne sait pas, d'un coup, il y a un ancien élève qui est venu mettre un coup de poing au proviseur et après on l'a attrapé pour essayer de le retenir. Mais ça s'est passé vite. Hein. Il a surgi d'un coup comme ça.
Erwan, élève lui aussi en première, complète le scénario.
Le proviseur, il essaie de retirer les barrières du blocage et l'ancien élève, il l'a pas aimé. Je pense c'est pour ça qu'il a frappé.
Tous les lycéens que j'ai rencontrés condamnent cette violence. Les enseignants, eux, réclament plus de moyens pour encadrer d'éventuels débordements. Il manque juste des surveillants pour calmer parfois les esprits qui s'échauffent, m'a confié l'un d'entre eux. Et de conclure, inquiet, ça serait quand même dommage que la situation s'envenime dans un lycée qui tourne plutôt bien.
Un reportage Europe 1 de Victor Dolande.
Les violences, la radicalisation aussi, les réponses de Jean-Michel Blanquer, c'est sur Europe 1 ce matin. Il est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h20.
C'est une information Europe 1. Pas de données sensibles retrouvées dans le matériel informatique saisi chez Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris. On va y revenir dans le journal de 8h tout à l'heure.
Une question à présent. Allons-nous bientôt devoir payer des taxes sur nos comptes courants? L'idée, petit à petit, fait son chemin.
L'éclairage avec la banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins. Nicolas Barret, bonjour.
Bonjour Marion.
Alors ça paraît improbable et pourtant, en Europe, les banques ont déjà commencé à faire payer certains de leurs clients.
Oui, ça a commencé par les très gros comptes de particuliers. Plusieurs banques suisses ont décidé de taxer les dépôts de plus d'un million, voire même 500 000 euros pour inciter leurs clients à investir plutôt qu'à garder des liquidités. Mais une banque allemande et puis surtout la grande banque italienne UniCredit vont maintenant taxer les comptes à partir de 100 000 euros. Ça touche donc un peu plus de monde quand même. Et toutes les banques guettent celles qui iront encore plus bas pour taxer les comptes à vue de leurs clients.
Mais pour quelle raison est-ce que les banques s'attaquent ainsi aux comptes courants de leurs clients?
Tout simplement pour répercuter les taux négatifs que leur prélève la Banque Centrale Européenne sur leurs propres dépôts. Les banques, en gros, cherchent à faire supporter la facture à leurs clients. Alors, après la Suisse, l'Allemagne ou l'Italie, est-ce que les dépôts vont aussi être taxés en France? Pour l'heure, il n'en est question que pour les très gros dépôts de plus d'un million d'euros. La Banque de France veut éviter que ça ne fasse tache d'huile. Mais enfin, la pression est là. Les taux négatifs, vous savez, c'est formidable pour les emprunteurs, mais catastrophique pour les épargnants qui possèdent des liquidités importantes et ça n'est pas prêt de s'arranger.
L'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h.
Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses.
Greta Thunberg fête aujourd'hui docteur honoris causa de l'université de Mons en Belgique, seulement quelques jours après qu'un mannequin à son effigie a été retrouvé pendu sous un pont de Rome.
Elle déchaîne plus que jamais les passions. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Alors qui sont les soutiens de l'activiste suédoise? Qui sont ses détracteurs? C'est l'enquête Europe 1 ce matin. D'abord, sur quoi se concentrent les critiques?
Alors il y a plusieurs niveaux de critiques. D'abord, ceux qui pointent son physique ou son autisme, difficile à justifier. Il y en a d'autres qui ne supportent pas qu'elle ait 16 ans et que soit une fille. Ça déstabilise certains intellectuels parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des jeunes filles porter la contradiction et haranguer les foules. Et puis après, il y a les critiques sur le fond. Ceux qui lui reprochent son discours de fin du monde anxiogène. Ça, les salariés du groupe LVMH l'ont entendu il y a quelques jours de la bouche de leur PDG Bernard Arnault. Pour lui, Greta Thunberg a un côté démoralisateur pour les jeunes et son catastrophisme absolu, pour lui comme pour d'autres, menace la croissance économique. Alors arrêtez de prendre l'avion, d'acheter des voitures, des téléphones portables, ça sonne trop anticapitaliste pour les industriels. La conclusion logique, c'est que Greta Thunberg serait une marionnette. C'est l'argument de l'essayiste Pascal Bruckner, par exemple, qui fustige un effet perroquet. Autrement dit, elle répéterait ce que les adultes lui disent.
Mais est-ce qu'elle est vraiment manipulée?
Alors, ceux qui ont la réponse la plus étayée, ce sont les scientifiques du GIEC, parce qu'ils ont pu parler avec elle, évaluer ses connaissances scientifiques. La vice-présidente Valérie Masson-Delmotte est frappée par sa compréhension en profondeur des sujets.
Malgré son jeune âge, je suis convaincue qu'elle a lu beaucoup de travaux scientifiques et qu'elle les a compris. Je pense qu'elle a une manière de réfléchir qui n'est pas commune.
Et alors, elle est financée par qui, Virginie Salmen?
Alors, Greta Thunberg affirme qu'elle ne dépend de personne financièrement. Elle a publié un livre au printemps. Les droits sont reversés intégralement à des associations. Son éditeur en atteste. Pour le reste, elle vit beaucoup de dons. Alors, son avocat, par exemple, m'a affirmé qu'il traitait son dossier gratuitement. Pour ses vidéos, l'artiste français Rhône, qu'on entend, la producteur de musique électronique, lui a offert ce morceau. Si elle a besoin d'argent, Greta Thunberg peut, en revanche, compter sur un fonds pour le climat. Qu'un homme d'affaires et quelques héritiers de grandes familles américaines, notamment les Kennedy et les Getty, ont monté cet été. Ça s'appelle le Climate Emergency Fund, le fonds d'urgence pour le climat. Ce sont des gens qui sont convaincus que les activistes comme Greta sont ceux qui peuvent changer le monde.
Voilà, enquête signée Virginie Salmen pour Europe 1. Greta Thunberg, dont le nom est évoqué pour le Nobel de la paix, qui sera décerné demain. On suivra ça, bien sûr.
C'était le journal de 7h. Merci Marion Calais. Un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani.